une autre histoire.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur.
Une autre histoire, une chronique proposée par Robert Martin.
Le 9 janvier 1934, les Français apprennent la mort par balle de l'escroc Alexandre Stavisky, dit le beau Sacha. La police l'a retrouvé la veille, agonisant au pied d'un lit dans un chalet de Chamonix. Il meurt quelques heures plus tard, à l'hôpital. Né le 20 novembre 1886 en Ukraine, dans une famille juive, naturalisé français en 1910, Alexandre Stavisky s'associe à son grand-père pour commettre une première escroquerie au théâtre des Folies Marigny, à Paris. Mais il doit rendre des comptes à la justice et son père, un dentiste d'une parfaite honnêteté, se suicide de désespoir. En 1926, il est incarcéré pour 18 mois à la prison de la Santé, à Paris, pour une affaire de détournement de bijoux. Il se promet de ne plus se faire prendre et il tiendra parole. En 1931, l'escroc réussit son plus beau coup en persuadant Joseph Gara, le député maire de Bayonne, d'ouvrir une caisse de crédit municipal et d'en confier la gestion à un comparse, un certain Tissier. Stavisky dépose au Mont de Piété des bijoux volés, faux ou surévalués par un expert complice. En contrepartie, comme tous les déposants, il reçoit des bons qu'il échange contre de l'argent auprès d'institutions financières confiantes en la signature de la caisse de crédit municipal. Mais il fait en sorte que le montant figurant sur la souche des bons soit inférieur à la somme qui lui a été livrée. Il présente les souches au Mont de Piété, récupère les bijoux et conserve la différence entre l'argent reçu et l'argent restitué. Il ne lui reste plus qu'à recommencer. Stavisky va ainsi détourner 239 millions de francs de bons avec d'autant plus de facilité qu'il peut se prévaloir d'une lettre de recommandation d'un ministre. Devenu richissime, M. Alexandre se pavane dans les salons du Tout Paris au bras de sa femme, Arlette, un ex-mannequin de Chanel dont il a eu un fils, et tous trois vivent dans un palace avec la gouvernante de l'enfant. Vacances à Deauville et à Chamonix, alternant avec les réceptions dans les salons parisiens. Le couple mène grand train et possède de nombreuses relations dans la presse, la politique et les milieux d'affaires.
On dit partout ça ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là, on se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou, il gagne du 100%, mais c'est du mauvais sang. Il existe un moyen pourtant d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout est délicieux, tout merveilleux, et de chanter à Dieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. On dit autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et l'on vivait si bien. Le puretin comme le rentier se baladait toujours à pied, l'été pour prendre le frais, dans le train se fait à peu près. Maintenant les petits comme les gros ne roulent qu'en auto, dans les cercles, les casinos, leur fou, là faut rien n'est trop beau, car disons-le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Pourtant encore poursuivi en justice pour diverses affaires, mais son réseau de relations lui permet d'obtenir que sa comparution soit 19 fois reportée. On révélera après sa mort que ces reports lui furent accordés par le procureur de la République de Paris, nommé Georges Pressard, qui n'était autre que le beau-frère du président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement, Camille Chautemps. Au moment où éclatera l'affaire, 80 dossiers environ constituées contre Stavisky, dorment dans les bureaux de la sûreté et des ministères intéressés. Mais les meilleures choses ont une fin, hélas. Le 2 juillet 1933, quatre bons négociables ne peuvent être honorés par le crédit municipal de Bayonne à court de liquidité. L'affaire des bons de Bayonne éclate au grand jour avec l'arrestation en décembre 1933 du directeur du crédit municipal et du député maire de la ville. Un autre député et deux directeurs de journaux subventionnés par Stavisky seront également arrêtés. Ensuite, l'escroc sera retrouvé à Chamonix quelques semaines plus tard. La mort de Stavisky, d'après le rapport de police, est consécutive à un suicide, mais l'opinion publique soupçonne aussitôt des hommes politiques de l'avoir fait assassiner pour l'empêcher de dénoncer ses complices. L'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné écrit « Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à 3 mètres, ce que c'est que d'avoir le bras long. Le plus probable est que la police, ayant repéré la planque de l'escroc, l'a poussé au suicide en multipliant les allées et venues autour du chalet. Ensuite, elle ne s'est peut-être pas hâtée de le conduire à l'hôpital. » Ce scandale est relativement peu de choses comparé à celui de Panama, par exemple, ou à ceux plus récents, écoute téléphonique, Crédit Lyonnais, Elf, France-Afrique, affaire Sarkozy et tant d'autres. Il ne met en cause ni un président de la République, ni même un quelconque ministre, mais seulement une demi-douzaine de politiciens de second rang qui se sont compromis avec Stavisky. La mort de Stavisky met à jour les rancœurs vis-à-vis des nouveaux riches au luxe flamboyant. Les xénophobes s'en prennent à une politique de naturalisation trop laxiste, comme Stavisky. L'Action française royaliste, par exemple, mais aussi les ligues populistes de droite dénoncent à l'envi la décadence de la Troisième République. Les communistes s'y joignant également, mais de façon différente. Les premiers donnent volontiers en exemple le régime fasciste de Mussolini, les seconds, le régime communiste de Staline. Tous conspuent la démocratie parlementaire et les 200 familles capitalistes qui gouvernent la Banque de France. L'indignation populaire entraîne la chute du gouvernement radical-socialiste. Édouard Daladier remplace Camille Chautan à la présidence du Conseil. Il destitue aussitôt le préfet de police, Chiappe, suspect de sympathie avec les ligues de droite. C'est l'indignation à droite comme à gauche où chacun soupçonne le gouvernement de vouloir étouffer les suites du scandale Stavisky. Car le mystère qui entoure la mort d'Alexandre Stavisky et les complicités dont il a bénéficié ne sera peut-être jamais éclairci, trop de pistes ayant été brouillées, peut-être volontairement. Le 6 février 1934, une grande manifestation va tourner à la tragédie, à l'émeute, à un affrontement sanglant entre manifestants des deux bords et avec la police dont la répression est féroce. Cette journée est généralement considérée comme le prélude au Front populaire, mais c'est une autre histoire.
Une autre histoire ? Notre histoire ?